Aujourd'hui en studio, nous sommes avec Germain Blaise. Vous êtes le coprésident des Jeunes Agriculteurs des Vosges. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Cécile.
C'est un phénomène qui n'a pas échappé aux Vosgiens depuis plusieurs jours, voire même semaines. On a des panneaux d'entrée de communes qui sont retournés. Alors ça fait partie d'une opération nationale des jeunes agriculteurs qui s'appelle « On marche sur la tête ». Justement, Germain Blaise, expliquez-nous en quoi consiste cette opération, pourquoi faire ça dans les Vosges.
Eh ben voilà, comme vous l'avez bien dit, ça part d'une initiative de jeunes agriculteurs du Tarn, donc à l'origine, qui ont démarré cette opération dans leur département pour symboliser le fait qu'en France, on marche sur la tête. Donc cette symbolique, elle est lourde de sens, on a plusieurs revendications et on a le soutien quand même du président national des maires ruraux de France, Michel Fournier, sur cette opération. Aujourd'hui, on a plusieurs idées en tête. Tout d'abord, c'est les contradictions entre l'affichage politique et les actes qui en ressortent, notamment vis-à-vis de la profession agricole. Alors, comme ça, on a l'idée tout simplement du ministère de l'Agriculture, qui avait quand même été renommé ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, où globalement, la profession agricole voyait plutôt d'un bon œil la politique mise en œuvre par le président Macron. Et finalement, on se rend compte que dans le même temps, on s'impose des règles de production en termes qualitatifs toujours plus importantes. Et le Parlement travaille sur des accords de libre-échange pour autoriser l'arrivée sur le territoire européen de production agricole en majeure partie d'origine de Nouvelle-Zélande qui ne respecte en aucun cas nos standards de production.
Oui, ça pourrait mettre à mal la souveraineté alimentaire en France qui, depuis plusieurs années déjà, est mis à mal au final.
Ben, complètement, puisque, après, je ne fais pas une fixette sur le président Macron, mais lors de son premier quinquennat, il avait justement instauré les états généraux de l'alimentation, où globalement c'était vraiment réécrire la feuille de route sur comment doivent se passer les négociations commerciales concernant les produits agricoles, en partant donc finalement en marche avant, en tenant en compte le coût de production du producteur dans ces négociations commerciales, parce qu'on se rend compte que finalement c'est des discussions tripartites qui ont lieu à deux personnes. D'une part, on a le distributeur qui réclame une baisse auprès de son industriel, et de l'autre part, donc l'industriel, s'il concède cette baisse pour obtenir le marché, ça se fait toujours sur le dos du producteur. Donc au final, on est le créateur de cette matière première qui crée de la valeur ajoutée, mais cependant, c'est la répartition qu'on décrit aujourd'hui. Et ces états généraux de l'alimentation devaient offrir un cadre législatif qui permettait d'encadrer justement ces négociations commerciales. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est déjà à la quatrième version d'état généraux de l'alimentation et que ça se passe toujours très mal. Si la profession agricole ne saisit pas le médiateur des affaires commerciales, on se rend compte qu'il y a toujours ce rapport de force qui a lieu entre la distribution et l'industriel au détriment du producteur. Et tous ces agissements aujourd'hui symbolisent parfaitement le fait qu'on marche sur la tête. D'un côté, on veut offrir une alimentation, et ce qui est tout à fait honorable, de qualité aux consommateurs, et de l'autre côté, on n'est pas capable de la payer, et on s'autorise le fait d'importer des produits qui ne respectent encore une fois pas nos standards de production.
Alors le but de cette opération en plus, c'est de la faire durer dans le temps, car on en parlait, ces négociations commerciales qui vont débuter prochainement, début 2024.
Oui, c'est ça. Nous, l'idée, ce serait vraiment de poursuivre le mouvement pendant la période de ces négociations commerciales pour justement, finalement, sensibiliser tout le grand public à cette opération de communication, parce que c'est valable pour la profession agricole, mais pas que. Aujourd'hui, il y a tout un tas de mesures, finalement, où le bon sens agricole qu'on a l'habitude de dire se perd. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, on nous impose 4% de jachère sur nos terres arables. Donc ça, c'est une déclinaison de la nouvelle PAC qui est rentrée en vigueur en 2023, avec encore une fois là les États membres à la main pour faire une déclinaison nationale de leur cahier des charges, où la France a été au rendez-vous pour verdir encore une fois son agriculture. Donc c'est ce qu'on tient à rappeler, les agriculteurs ne sont pas du tout hostiles à ce verdissement, simplement ça entraîne des transitions qui doivent opérer sur leur exploitation. Ces transitions ont un coût. Et ce n'est pas à l'agriculture seule de supporter ces coûts, puisque c'est pour l'ensemble de la communauté que ces améliorations de production sont faites. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, l'agriculteur ne doit plus se contenter de produire et de produire avec la question du bien-être animal, la question, bien entendu, de la qualité des produits, la question de la place de l'environnement dans ce cycle de production. On nous avait promis une non-surtransposition des règles européennes, et finalement en France on durcit toujours un petit peu les moyens, enfin on durcit je dirais, le cycle de production sans forcément derrière en avoir la valeur ajoutée qu'on devrait être légitime d'obtenir.
Cette opération, comment elle est perçue de manière globale par les maires des communes ?
Eh ben, globalement, il est vrai que le phénomène s'est un peu inversé, puisqu'au début, donc, on y allait... Alors, je dirais pas en se cachant, hein, puisqu'on a toujours revendiqué que c'était nous qui étions à l'initiative de ces retournements de panneaux. Et la symbolique en est forte, elle est globalement très très bien perçue, puisqu'aujourd'hui la tendance est inversée. Et c'est même des maires des communes concernées où le retournement de panneaux n'a pas eu lieu qui nous contactent et qui se demandent finalement pourquoi ils ne sont pas touchés par ce mouvement. Donc je tiens à les rassurer pour ceux qui sont vos auditeurs aujourd'hui, que perdez pas patience, les jeunes agriculteurs vont bientôt arriver dans vos villages.
Aucune commune ne sera oubliée. Jérémy Blais, je voulais également revenir eh bien, sur le fait que cette opération, ça permet aussi au grand public eh bien, de se questionner sur vos actions, sur le pourquoi du comment tout ça est fait.
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours une image, alors je qualifierais un petit peu de rétrograde du monde agricole. On est hostile au changement, on est arriéré, on n'est pas d'accord pour évoluer dans la société comme elle évolue, alors que finalement, aujourd'hui... je crois qu'il faut que les citoyens fassent un peu confiance à leurs agriculteurs. Des mutations, on en a toujours opéré, on en opérera toujours. Je crois que le résumé peut être vite vu. L'agriculture française est encore une fois primée comme étant la plus durable du monde. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Aujourd'hui, on demande à l'agriculteur non seulement de produire, mais aussi de s'inscrire dans le défi de souveraineté énergétique qui est voulu par le président Macron. Aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de pourcentage d'énergie produite issue d'énergie renouvelable. Donc, l'agriculteur, on pense premièrement à la méthanisation. Donc, dans le département des Vosges, même si parfois elle est décriée, je pense que globalement, le boulot a été fait avec l'un des départements de France le plus méthaniseur. Donc, on a 46 installations dans le département des Vosges. Aujourd'hui, il y a des gros projets qui se créent sur du photovoltaïque sur les bâtiments agricoles. Et ça, je tiens à le souligner. On a une position assez clair là-dessus, donc FEDEGIA Chambre sur le photovoltaïque au sol, non. Des projets d'agrivoltaïsme qui respectent une réelle production agricole en dessous de ces panneaux, oui. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant pour avoir un cadre législatif qui soit assez ferme là-dessus et justement pas arriver à des projets un petit peu alibi où finalement 2-3 moutons à l'hectare serait la caution agricole d'un projet d'un investisseur privé. Ça, c'est vraiment pas le modèle qu'on veut. Donc aujourd'hui, les agriculteurs produisent des denrées agricoles de qualité, il faut le rappeler, en prenant en compte bien entendu le bien-être animal, la qualité de l'environnement, mais s'inscrit aussi pleinement dans le défi de souveraineté énergétique.
Pour terminer, Germain, aujourd'hui, quelles sont les revendications des jeunes agriculteurs, mais aussi de la FDSE hein, qui s'est greffée au mouvement? Quelles sont vos revendications? Qu'attendez-vous de la part du gouvernement aujourd'hui?
Eh ben aujourd'hui, bon, c'est des termes un petit peu techniques, mais ce qu'on avait obtenu dans le cadre justement d'un travail législatif à l'automne, qui s'était soldé par une commission mixte paritaire, donc qui est composée de sénateurs, dont le sénateur Daniel Gremillet, puis des députés, sur le fait d'exclure justement la matière première agricole, donc tous les produits que les agriculteurs produisent, de les exclure de ces négociations commerciales. On avait le ministère des Finances, donc par la voix de son ministre Bruno Le Maire, qui voulait justement ravancer ces négociations commerciales en y incluant une nouvelle fois les matières premières agricoles. Donc aujourd'hui, ça, c'est déjà un premier non-sens. Dans le même sens, on a la détaxation partielle du GNR. Aujourd'hui, on bénéficie d'un certain remboursement sur nos consommations de gasoil non routier. Donc ça, c'est pareil. Il y a une suppression qui est programmée en supprimant 25% de cette détaxation tous les ans. Aujourd'hui, on a vraiment que des signaux politiques qui vont finalement à l'encontre de la profession agricole. Et dans le même temps, donc c'est pareil, ce qu'on dénonce aussi, c'est cette transition environnementale punitive finalement. Donc on parlait du rehaussement du seuil des RPD, donc ça vous dit pas grand chose, mais c'est les redevances pollution diffuse. Donc c'est à chaque fois qu'on achète une Bosch pour couvrir un silo dans silage, un film enrubanné, des choses comme ça, et en fait ils voulaient augmenter le seuil de 25%. Donc jeunes agriculteurs et FNSEA ont eu une rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne hier soir, donc c'est tout frais les infos là. Donc apparemment le gouvernement abandonnerait ce projet de rehaussement du seuil. Il y avait aussi la taxation sur les forages privés et sur la taxe eau qui devrait également être abandonnée. Donc tout ça, c'est finalement, c'est plus des victoires syndicales, c'est grâce à notre mobilisation, ça ne s'affligera pas en plus à la production agricole, mais c'est pas un gain en soi, c'est finalement, ça aurait pu être pire si on s'était pas mobilisé. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, et je pense que c'est quand même important de finir sur une touche d'optimisme, parce que le département des Vosges est le département de la région Grand Est qui installe le plus en agriculture, du fait qu'on est un département d'élevage. Aujourd'hui, on a quand même 4 grosses fromageries sur le département. On a 3 abattoirs. Aujourd'hui, on a une réelle dynamique d'élevage sur le département. Et par rapport à la conclusion qui avait été faite par le rapport de la Cour des comptes, je pense plutôt que l'élevage dans nos territoires, c'est une solution et pas le problème. Aujourd'hui, on se rend compte que l'activité agricole et agroalimentaire est le premier employeur du département des Vosges. C'est un tissu économique. Il y a 7 professions qui tournent autour du métier d'agriculteur. Je pense que c'est un réel pan de notre économie. Et ça doit rester notre fierté et pas devenir finalement notre bouc émissaire, quoi.